impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs des impromptus, bonjour. L'image même d'Elsa Triolet est pour une grande part celle laissée par les beaux poèmes d'Aragon, épousé en 1939, qui lui écrivit « Enfin vinrent les temps de toi ». Cependant, qui est la vraie romancière qui passe de l'écriture en russe, celle de Camouflage en 1938, à l'écriture en français, langue d'adoption, celle du roman qui lui vaudra le prix Goncourt en 1945, le premier ACO coûte 200 francs. C'est celle qui a lu en français Les Malheurs de Sophie, celle qui épouse André Triolet, un officier attaché à l'ambassade de France en Russie 1917. Ils se sépareront en 1921. C'est celle qui traduit les œuvres d'Aragon en russe et qui fait connaître les œuvres de Tchekhov et de Maïakovski en les traduisant en français. Amoureuse du poète Maïakovski, elle lui conservera son amitié toute sa vie. J'avais pour Maïakovski une de ces amitiés totales qui remuent les montagnes. Elle, qui douta longtemps de son talent, fut encouragée par Gorki dans la voie de l'écriture. « Vous saurez écrire et je vous aiderai ». En 1960 commence la publication des œuvres croisées d'Aragon et d'Elsa Triolet, mais la voix d'Elsa est singulière. Les thèmes de la solitude, de la douleur, du sentiment de finitude tissent la matière de ses romans. Elle déclarera « Les ruines dont j'étais habitée faisaient que la démolition humaine, que les hommes portant une blessure ou la mort dans l'âme m'attiraient, me fascinaient. Il devait y avoir un joli nombre de ruines humaines de par le monde. » Ces ruines dont elle se dit habitée sont exprimées d'abord dans le journal qu'elle écrira de 1912 à 1939. Nous avons choisi quelques pages où l'on découvre ses doutes, ses interrogations et ses premiers pas dans l'écriture.
Décembre 1913. Je pourrais m'endormir au milieu d'un mot, mais quand même, j'ai eu envie d'écrire. Est-il vrai que pour devenir un grand artiste, il faut aimer son art par-dessus tout? Je le crois. Il faut l'aimer par-dessus tout, ne l'aimer que pour lui-même, et non pour la gloire, la célébrité, pour prouver qui l'on est. Je suis doué, mais j'ai souvent conscience d'une limite que je ne peux pas franchir. Par instant, je me laisse entraîner, je m'abandonne, mais ce n'est que par instant, et si le temps passe incroyablement vite lorsque je dessine, ce n'est pas cela que je devrais vouloir. À quoi bon écrire que je n'arriverai jamais à rien? D'ailleurs, je n'ai jamais pensé arriver à quelque chose. L'atelier n'a été qu'une amusette. Y a-t-il rien qui pourrait m'absorber totalement? Non. Dieu m'a donné le désir d'amour, a créé mon âme pour l'amour, mais ne m'a pas donné un corps fait pour l'amour. Peut-être que toutes les femmes sont pareilles en cela, et que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de grandes femmes, de femmes de génie. On ne peut en même temps aimer et se consacrer à l'art. Je le sens maintenant tout à fait clairement, intensément. Je crois que si j'avais besoin de gloire, ce ne serait pas pour la gloire, mais comme remède contre mon culte de l'amour. À l'heure présente, je pense qu'on ne peut créer que dans l'abandon total, l'oubli de tout au monde, sans chercher le plaisir du travail, mais seulement sa nécessité, son évidence, se dire que l'on n'a pas droit de ne pas travailler, que l'on doit éprouver un sentiment que l'on ne saurait nommer plaisir. On peut prendre du plaisir quand ce serait à faire la broderie, mais il n'est pas donné à tout le monde d'éprouver des sensations aussi fortes. Je ne le crois pas, et puis d'ailleurs, je n'en ai pas l'énergie. Quelques compliments, et c'est la flambée. L'on vous critique et vous perdez toute envie de dessiner. Vous séchez les cours, vous devez vous forcer pour aller à l'atelier. Cela se conçoit lorsqu'on n'a aucune confiance en soi et que, par-dessus le marché, on vous dit que ça ne va pas. Comment ne pas se dégoûter de tout ? Je serais vraiment curieuse de savoir ce que je finirai par devenir, ce que sera ma vie. Je crois que Constantin Rome est content de moi. Et il ne m'en a rien dit à moi, mais à Esserlis, il a dit que j'avais fait des progrès extraordinaires. Je ne sais. Ici, comme en tout, je sens que je me heurte à une limite que je ne puis franchir. Je crois que jusqu'au bout de ma vie, en quelque domaine que ce soit, je ne saurais faire mon chemin. Même si j'abandonne tout pour me consacrer à une seule chose, je ne saurais le faire que gentiment. J'ai horriblement sommeil. Ne pas oublier la prochaine fois de noter ce que je pense de E, Esserlis et de K. Pour me remettre au travail, il m'est indispensable de relire Dostoïevski. Il va me bouleverser d'admiration. Je me jetterai sur ma plume. Cela m'a déjà aidé deux fois. Certaines gens, vraiment orthodoxes, pas au sens religieux, j'en suis jusqu'à un certain point amoureuse, Tourguenieff et à partir de lui, Rozanov, d'ordinaire, il ne me trompe pas.
18 septembre 1924. Les gens me plaignent, alors que je ne souffre pas de la faim et que ma chambre à rayures jaunes n'est pas si minable que cela. Ils s'étonnent aussi que je sois seule, mais comment cela se peut-il? Ils ne comprennent pas que je suis mieux ainsi. Certains pensent que je ne trouve personne à m'annexer. Le danger, c'est que je me retire dans ma tour d'ivoire et cela témoigne d'un orgueil si mauvais. On a du mal à associer ma petite taille et mes joues roses à ma dureté et ma sécheresse de caractère. Et pourtant, ma petite taille et mes joues roses ne sont qu'un camouflage.
Le 13 novembre 1924. Je suis allée les voir les singes au jardin d'acclimatation. Je ne pouvais rien inventer de mieux. Je suis dépareillée. Je n'ai pas de pendant. Je suis un objet des assorties, comme il arrive parfois dans les magasins. Un article dont on n'a rien à faire. Un chandelier tout seul. Toute la gente masculine traîne autour de moi et ne pense qu'à me ploter. Les amis, comme les soupirants, et dans le fond, ils s'en fichent. André, c'est le calvaire. Il m'ennuie, il me pèse, il me dérange. J'ai plus que tout envie de quelque chose de solide. Les singes s'épouillaient, l'un, l'autre, se serraient, l'un contre l'autre comme des réfugiés, se mettaient soudainement à se battre et soudainement s'arrêtaient. N'était la puanteur et la chaleur, je les aurais contemplés pendant des heures. Volodia n'a plus besoin de moi que d'un vieux mégot, des craques du même genre que les autres.
7 mars 1925. Je crains que Fraise des Bois ne vaille rien et qu'André ne vaille pas grand-chose. Il me manque un être de qui je pourrais m'occuper et que je pourrais aimer comme l'enfant que je n'aurais jamais. André est-il devenu comme cela ou l'a-t-il toujours été sans que je le sache? Il a osé me juger et juger les autres. Je m'ennuie. Et quoi, encore, encore, encore un admirateur? Peut-on appeler cela de l'amour? Je m'ennuyais tellement que j'ai failli écrire à Roma, mais pour lui parler de quoi? Et puis cela aurait été tellement inutile. Xana m'a raconté qu'elle avait trouvé des lettres que Vania m'avait écrites, mais jamais expédiées. Elle n'en avait jamais vu d'aussi aimante. Elle pensait me faire plaisir, mais moi, à partir de cet instant, j'ai été saisie de tristesse. Vania, qu'autrefois j'ai tant aimée, et dont je n'ai plus rien à faire, irrémédiablement.
Le 16 mai 1925. Un amour heureux, merveilleux, m'est advenu. Il m'a donné sa leçon, expliqué les choses, et m'a abandonné à une solitude complète. Il s'y est substitué la vieillesse, les rides, le sens de l'irrémédiable. Ce bonheur m'a été donné comme la meilleure part de ma vie, si pauvre en bonheur, pour me faire voir ce que c'est et emplir ma vie non de regrets, mais de reconnaissance. Comme je suis misérable, pour d'autres ce serait des miettes, pour moi le cœur est l'essentiel de tout. Mon bien-aimé perdu, comme mort, cela vaut mieux. Il ne m'aurait jamais aimé absolument. Il ne me reste plus rien. Qui croirait qu'aimé de tant de gens, je ne suis à mes propres yeux aimé de personne? Qui a besoin de moi comme de l'air qu'on respire? Celui-là ou celle-là n'existe pas. Viendront les rides définitives, la graisse, et je resterai seule. Alors ce sera au Véronal de me tirer d'affaire. Comme je suis devenue résignée.
8 avril 1929. J'ai renoncé à écrire ce bouquin. C'est extrêmement dommage, car à présent, il s'est sauvé comme le lait sur le feu. J'ai relu ce que j'ai écrit la dernière fois, je me rends compte de ce que j'avais imaginé, mais je ne me souviens de rien et ne puis rien écrire. Évidemment, les choses ont beaucoup changé, nous vivons ensemble. Mais mon humaine ruse invente des moyens d'être malheureuse. Je ne crois à rien, je doute de tout, je suspecte tout. Mais qu'est-ce qui m'attend si je m'en vais? L'ennui absolu. Un autre garçon? Je n'en ai pas le courage. Faire l'amour sans plus? L'horreur des gestes répétitifs, dépersonnalisés. Que faire? Être toujours à deux? Je n'ose même plus penser quand il est près de moi, de crainte qu'il ne devine ce que je pense. Bref, il m'empêche de penser. Et quelle que soit la façon, la force dont il m'aime, ce n'est pas assez, ce n'est pas comme je voudrais. Je suis une ordure, un être solitaire. Que va-t-il arriver maintenant? La vie m'a été donnée en trois dimensions. Je gage qu'il serait au-dessus de mes forces de revenir à l'ancienne. Mais m'adapterai-je à la nouvelle? Je rêvais d'un moyen d'équilibrer ma vie, je l'ai, et ma vie d'antan me manque. Celle qui m'emportait, et je ne sais comment, même pas dans la vie, mais simplement dans l'espace. Je comprends. J'étais un être presque abstrait, et voilà tout d'un coup que l'on me donne une chair, et du sang, et un toit, et un mari. Mais est-ce que ça existe, des maris comme ça? Un joli garçon, une prima donna? Pour commencer, j'ai un peu peur. Va-t-il vraiment renoncer aux autres femmes? Ensuite, il me fait de la peine. Je ne lui permettrai pas de courir la gueuse, et par conséquent de connaître les joies de jeu le plus passionnant qui soit, le jeu de l'amour, car il est né pour cela. Mais que dois-je faire? Si je le lui permettais, notre vie à deux perdrait tout son sens à mes yeux. J'aurais pu vivre comme cela avec Marat, au sens propre, une cohabitation et rien de plus. Il ne m'a jamais rendue jalouse. Mais lui, je sais comment il est avec les femmes. Ce qui compte, c'est séduire, convaincre, qu'elle lui cède, c'est la victoire, bref, le grand jeu. Tandis que ce qui compte pour Marat, c'est prendre son plaisir. Il y a une solution. Faire mes valises et partir à Moscou dans 10 jours avec Volodia. Mais à qui vais-je abandonner mon jeune homme? Et au-devant de quoi vais-je aller moi-même? J'ai 32 ans, etc. C'est impossible, douloureux, sans issue.
le 12 septembre 1938. Les gens sont fous de peur. Personne ne veut faire la guerre. Chacun est installé dans sa vie, ses projets, sa famille, son affaire. Qu'on nous foute donc la paix ? On est bien trop paresseux pour se fâcher. Il faut de l'énergie pour l'exaltation. Au fond, on a les nerfs dans un excellent état. Le chien enragé vous mordra-t-il ? La rage se propagera-t-elle ? Même en sachant qu'il faudrait mieux commencer tout de suite, comment se décider à mettre de lourdes godasses ? Et surtout, surtout, comment se résoudre à la séparation ? Ne plus être ensemble ? Courir des dangers séparés ? Différents ? Car rester à Paris, c'est rester sous les bombes. C'est incompréhensible, comme la mort. D'ailleurs, c'est la mort. Et quelle mort ! Je suis calme et dégoûté. Le fait est qu'avec tout ça, il est assez difficile d'essayer d'écrire de petites histoires.
19 septembre 1938. Après tout, le ciel n'était peut-être pas si bleu que ça. Nuit et jour, je parle à mes bourreaux, en moi-même. N'importe comment, je n'ai rien à faire. La radio débite la kyrielle des trahisons à l'ordre du jour. Ils vont s'abattre tous les quatre sur l'URSS. L'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Les Japonais aussi, par la porte de service. On en perd le souffle. Si les Soviétiques volent au secours de la Tchécoslovaquie, on dira que ce sont des salauds, des militaristes, qu'ils veulent allumer une guerre mondiale. S'ils n'y volent pas, ce sera traître, lâche. Ils manquent de poids pour se battre contre Hitler. Les gens ne veulent qu'une chose, aller au cinéma et baste. Mais plus un homme est lâche, retors, infect, mieux il vit, plus il est heureux. C'est ça qui ne va pas, heureux. Des hommes se battent, sacrifient leur vie au bonheur des autres. Seulement ce bonheur ne va pas à ceux pour qui ils sont tombés, mais à des vermines qui n'ont rien à voir. Le fascisme s'avance comme une nuée immonde. En somme, j'ai l'air de me plaindre que la justice ne soit pas de ce monde. Il est bien temps. Aurais-je l'intention de m'inscrire au nombre des sages ? Autrefois, je l'aurais vraiment été. Je n'ai jamais porté de haine à personne. Je n'ai jamais souhaité de mal à personne. Je n'ai jamais menti. Les gens trouvaient tout ça extraordinaire. Ils croyaient que ce n'était qu'un manège. La seule chose, c'est que je ne savais pas deviner la douleur d'autrui. Le roi Albert, qui a rendu toutes ses villes auprès de moi, est cet homme couvert de cadeaux pour sa fête. Les Tchèques bénissent le roi Albert, qui a rendu toutes ses villes.
Le 23 septembre 1938. Je n'ai jamais su me faire des illusions. Je ne me suis jamais cru irrésistible. Je ne me suis jamais fait croire exprès que j'étais aimée quand je ne l'étais pas. J'ai pu me tromper, c'est autre chose. Mais généralement, je reste atrocement lucide sur mes possibilités et mes limites. Je vois mes rides. Oh oui. En général, je vois les choses comme sous un microscope. Je ne veux pas dire agrandi, mais net, net. Les surréalistes sont vraiment de sombres fumistes, car un rêve n'est qu'un rêve. Et à quoi cela sert-il d'être folle ? Exemple, la dame Bernard qui écrit à Aragon depuis des années, tous les jours, plusieurs lettres, qui est folle et dont la folie se concentre sur un amour pour Aragon. Qu'obtient-elle ? Rien. Pourtant, son énergie et sa volonté sont féroces. On me dira, mais elle est folle. Bien. Et ceux qui souffrent d'un amour malheureux, d'un amour sans limite, à quoi arrive-t-il sinon au suicide ? Les forces occultes se perdent. Et on n'a pas encore inventé le récepteur qui les capterait. Et la retransmission de pensée ne reste que coïncidence. Et c'est bien dommage. Les moments d'illusion qui sont des moments de bonheur, la musique, sa propre douceur, l'amour, la promesse de l'amour, une danse, un brouillard dans la salle. Je ne sais pas m'expliquer, je me comprends parce que je me rappelle. Quand on a beaucoup rêvé à un homme, il arrive qu'on ne sait plus qu'en faire. en le voyant en chair et en os. Supposons que je sois amoureuse. Que pourrais-je offrir à mon amour, à cet homme paré de tous les attraits? Évidemment rien. Pourquoi alors essayerais-je de me faire aimer? Je lui veux, voudrais tant de bien, la plus belle, la plus merveilleuse. Comment peut-on ne pas avoir un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'homme qu'on aime? Je ne suis pas un cadeau à faire à quelqu'un.
October 8, 1938. En plus de l'horreur générale de la fascisation de la Tchécoslovaquie, du prochain dénouement de la question d'Espagne, des mesures que l'Italie prend contre les Juifs, des ténèbres et du chagrin qui commencent à nous environner, en plus de tout cela, chaque jour nous apporte son lot de détails saumâtres. Je corrige les épreuves de « Bonsoir, Thérèse », mais voilà que depuis le matin, le téléphone, les lettres, les journaux se mettent à déposer leur saleté. Je suis encore au lit et j'ai un tel battement de cœur qu'il m'est difficile de continuer à m'occuper des épreuves. Hier, j'ai lu à la une de la Pravda, en éditorial, que l'œuvre de Maïakovski était reconnue comme bien nationale et que la publication de ses œuvres était confiée à Asseyev, Maïakovskaya, Peretz et Serebriansky. Ni Lilitchka, ni Katanian qui le faisaient jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est? Une concession à l'opinion publique, la même, les mêmes gens qui se sont acharnés contre Volodia de son vivant et l'ont expédié dans l'autre monde, qui le sépare à présent de son entourage. Ou est-ce une mesure encore plus menaçante? Comme c'est effrayant, comme je suis absolument consternée pour Lilitchka. Comme c'est effrayant, effrayant. Sans cesse, il me semble que j'ai atteint le fond du désespoir, puis cela devient encore pire. Ils veulent littéralement m'expédier dans l'autre monde. Il est très difficile de se mettre au travail après avoir reçu sa dose de contrariété du matin.
Le 13 octobre 1938. À la radio en ce moment, Boris Godounov avec Chaliapine. Chaliapine chante devant mes yeux, l'enfant sanglanté là, dans le coin. Non, ce n'est pas moi. Absolument génial, déchirant. Je me rappelle qu'en 1915-1916, j'ai entendu Boris avec Chaliapine chez Zimine. J'étais chez Iserlis. Ce salaud-là, encore un, aimait la musique pour de bon. Je pleurais presque d'admiration, et Iserlis aussi. Maintenant, Chaliapine chante Igor. Sa basse est suave comme un ténor. Chaliapine est mort. L'art éphémère des interprètes est désormais immortalisé. Bientôt, quand la télévision sera perfectionnée, on pourra conserver les gestes d'un comédien, d'une ballerine. C'est drôle, hier j'ai rêveusement déclaré à Aragon que je commençais à avoir peur de la guerre. Ce n'est pas pour rire. C'est seulement que là, tout d'un coup, j'ai compris que les choses terribles ne faisaient que commencer. La guerre qui n'a pas eu lieu, on a un peu causé et on s'est arrêté, aurait été une guerre ou quelque chose d'approchant victorieuse, à l'avance victorieuse. Mais maintenant, qui va se battre contre qui? Maintenant que ces coulaques du genre de Chamberlain nous ont vendus en gros et en détail à nos ennemis. Il est vrai que l'histoire ne dit jamais son dernier mot. Tout bouge, tout change. Cette affaire de délai, 1 an, 10, 100, oui, cette affaire de délai. Il serait intéressant d'écrire une chronique de ma rue, la dame au bouchon, les concierges, socialistes, communistes, etc. Celle qui a été une belle gosse, celle qui avait été femme de chambre à l'hôtel Georges V, le cordonnier italien anarchiste, le bistrot du coin que le jour de la fête de Jeanne d'Arc on avait boycotté, le Midinette's Bar, la petite épicerie avec la fille qui grandit et devient putain sous l'œil morne et attendri de la mère qui ne sait pas lui résister. La mère abandonnée tant de fois par son homme. Le flirt entre le vieux monsieur Thomas et la dame des bouchons. L'amour de l'homme du numéro 2 pour ma concierge. Vous riez, mais moi je souffre. La femme de chambre du George V remplaçait le concierge pendant les vacances et pendant qu'elle y était, elle lui a chipé des ménages. C'est une lourde femme, grisonnante, qui fait des ronds avec une jambe tout en boitant. Il lui faut 1 litre de blanc par jour. Le matin, elle paye un coup au bœuf. Dans la journée, elle a tout le monde pour parler sans fin. J'étais belle gosse, qu'elle dit.
« 14 novembre 1938. Comme il est facile de me déconcerter. Une inflexion méprisante d'Aragon qui n'a pas aimé le feuillet que j'avais écrit pour la radio, et j'ai perdu toute envie d'écrire. C'est son mépris des répétitions, de l'emploi des mêmes expressions et phrases, de l'indigence des autres. Qui puis-je si je suis indigente, si sa générosité n'est tout simplement pas dans mes moyens ? Faut-il vraiment me résoudre à serrer les dents et à réécrire ce feuillet avec une telle haine? Si Aragon le comprenait, il serait plus prudent à tous les points de vue. Et j'ai aussitôt envie d'écrire en russe. Je pense avec terreur que bientôt je désapprendrai non seulement à écrire, mais à parler le russe. J'ai bien désappris à parler l'allemand. Et voici dans ma langue maternelle, de mon pays, je marcherai en marge, comme marche la pluie oblique.
Le 1er mars 1939. C'est hier que nous nous sommes mariés. J'ai eu toutes les peines du monde à entraîner Aragon, qui était au beau milieu de son article, et ne voulait pas partir avant de l'avoir fini. On ne répondait pas, chez Sadoul, et j'étais sûre qu'il oublierait de venir. Il était avec Unique, notre témoin. C'est bien la dernière fois qu'on m'aura appelée mademoiselle et Kagan. Sadoul est arrivé à 11 heures tapante, en même temps que la porte s'est ouverte pour le maire. Un petit maire pas avantageux. La salle qui essaie d'être magnifique avec un plafond peint et des banquettes de velours bleu passé. Il y avait 3 couples, mais c'est nous qu'on a mariés en premier. Peut-être à cause du directeur de journal. Seulement le garçon de mairie, pas au courant, nous a mis au 2e rang. Et il paraît qu'il faut être juste en face du maire quand il lit le code. Alors, tout confus, il a dû remettre ça. Et Aragon a dit 2 fois son oui. Puis on a signé dans un grand livre. C'est le même bonhomme qui m'avait cherché des poux pour mes papiers, qui a essayé, derrière le grand livre, de donner à la cérémonie un air majestueux. Puis les types de la mairie, en uniforme bleu à boutons d'or, ont quêté dans un petit sac rouge. Des gens humbles attendaient d'être mariés après nous. On a couru à la brasserie de l'univers parce qu'Aragon devait finir son article et était insupportable. Il l'a écrit au champagne, du mum, s'il vous plaît, et payé par Sadoul, le pauvre. Le cycliste est venu chercher l'article, un article comme toujours brillant, encore plus violent que d'habitude. Alors on a emmené Sadoul et Unique à l'Escargot d'Or, à la Porte Saint-Denis, car c'est le restaurant que je préfère à Paris. Je suis rentrée vers 4 heures et j'ai pris un bain très chaud, après tout ce champagne. Avec beaucoup de peine, j'écris mon article pour ce soir. Avec peine et dégoût, je n'arrive pas à me concentrer. C'est odieux, c'est de la paresse, une paresse envahissante. Je n'ai pourtant pas de végétation dans le nez. Oui, mais j'ai mal au ventre, cela vaut bien les végétations. À 6 heures est arrivée Clara Malraux. Radieuse. Elle prend une espèce de revanche sur les jours d'humiliation et de malheur par lesquels elle a passé. Elle a un amant, une fille, du travail qui lui donne de l'argent et de l'importance. Et Malraux lui fait comprendre que c'est elle qui compte dans sa vie, alors. Ce soir, au cinéma, j'avais derrière moi une dame tout en renard argenté qui poussait des petits cris de contentement et de rigolade. À chaque cri, toute la rangée se retournait pour me regarder, moi. Demain, je parlerai d'Armand Robin, d'Adrienne Monnier et de la femme chez Moreau qui avait perdu sa fille. Et de quoi encore? Il y avait une chose que je voulais absolument noter, et c'est celle-là que j'ai oubliée.
Thank you.
Cantonné le plus souvent dans son statut d'égérie du poète français Louis Aragon, cette femme de lettres fut assez méconnue. Elle apparaît au fil de son journal comme une créatrice inquiète, centrée sur ses amours, et son rapport à l'écriture est souvent empreint d'une mélancolie dont elle tire la substance même de ses écrits. Ainsi, elle dira du roman « Le cheval blanc » publié en 1943 « Toute ma vie en est la source, et ce n'est pas d'une étincelle qu'il est né, mais de toutes les braises de tout ce qui a brûlé autour de moi. » Elle s'avère également une passeuse de littérature entre la littérature française et la littérature russe par ses traductions d'une langue à l'autre et ses contacts avec l'intelligentsia russe et française. Enfin, dans les années de guerre, sa prise de conscience politique de la montée du fascisme, ses justes inquiétudes à l'endroit de ses amis russes comme Maïakovski, inquiétés par le régime soviétique, en font une femme lucide et émouvante. Unies par la littérature et leurs œuvres croisées, Elsa est certes indissociable d'Aragon, mais on aura découvert une femme qui était effectivement, pour beaucoup, l'avenir de cet homme, qui célébra sa beauté et exprima la solitude à deux qu'Elsa éprouva également douloureusement. C'est par la fin du poème intitulé « Cantique à Elsa » publié par Aragon en 1942 que nous prenons congé.
Ô mon enfant, le temps n'est pas à notre taille que 1001 nuits sont peu pour des amants. 13 ans, c'est comme un jour, et c'est un feu de paille qui brûle à nos pieds, maille à maille, le magique tapis de notre isolement.
Nous vous remercions de votre écoute. Les écrits intimes d'Elsa Triolet ont été publiés aux éditions Stock en 1998. La musique qui accompagnait ces textes était extraite de l'Adagio du quartet pour cordes de Dimitri Chostakovitch. Anne Pronot,
Marie Béraille.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez